Il fait 18h à Paris, 16h en temps universel, il est 19h30 à Téhéran.
Les mots en pisse.
La tension est à son comble au Proche-Orient. Après des attaques israéliennes cette nuit sur des sites militaires en Iran, de très nombreuses chancelleries redoutent d'une forte escalade alors que se poursuivent les bombardements sur le Liban et sur la bande de Gaza. Les derniers détails dans un instant. Après Taylor Swift, c'est au tour d'une autre superstar américaine de soutenir la candidature de Kamala Harris pour la Maison-Blanche. Beyoncé, Queen Bee, était hier au meeting de la démocrate au Texas, pas en tant que célébrité ni politicienne, mais en tant que maire, a-t-elle lancé à la foule. Et avant la présidentielle américaine, on vote également en Géorgie. Fermeture des bureaux de vote à l'instant pour des législatives particulièrement scrutées aux aires de référendum pro-Russie ou pro-Europe. Depuis la fin de ce journal en Argentine, il y a un an, le pays connaissait sa plus grave épidémie de dengue depuis 30 ans. Alors pour combattre la maladie, les autorités mettent en place des stratégies innovantes. La dernière en date, lâcher dans la nature des milliers de moustiques stériles de couleur rouge. La riposte israélienne est finalement arrivée un peu moins d'un mois après l'attaque de près de 200 missiles iraniens sur son territoire. L'État hébreu a frappé cette nuit trois vagues successives de frappes. En Israël, on espère ainsi mettre fin au cycle attaque-riposte avec Téhéran. Téhéran, là où la population craint maintenant un engrenage entre les deux pays. Sur place, Siavosh Gazi.
L'Iran a durci le ton en affirmant qu'il avait le droit et le devoir de répondre à l'agression israélienne. Ce communiqué du ministère iranien des Affaires étrangères a été publié alors que dans la matinée, le ton était plutôt à la retenue. Plusieurs responsables iraniens avaient affirmé que le système de défense anti-aérien était entré en action et réussi à intercepter les missiles israéliens et que les dégâts étaient mineurs. Dans la nuit, on avait entendu à Téhéran les bruits de six fortes explosions et des tirs des systèmes anti-aériens. Aucune précision n'a été donnée sur les cibles visées, mais la télévision d'État a montré des images de la circulation automobile normale à Téhéran en interrogeant des passants qui affirmaient que tout était calme. Signe du soulagement de la population, le rial iranien s'est renforcé face au dollar alors qu'il s'était affaibli ces deux dernières semaines. La population craint donc une riposte iranienne à l'attaque menée par Israël et de nouvelles frappes israélienne qui pourrait provoquer un engrenage dangereux entre les deux pays. Siavosh Gazi, Téhéran RFI.
L'Iran qui, suite à ses frappes, a fait état de dégâts limités. Deux soldats seraient morts et dans la foulée, Téhéran qui reconnaît dans le même temps, par la voix de son ministère de l'Intérieur, ses responsabilités en matière de paix et de sécurité régionale. Réaction en cascade suite à ces vagues de frappes israéliennes sur l'Iran. La France appelle toutes les parties à s'abstenir de toute escalade et action susceptible d'aggraver le contexte. Même son de cloche du côté du chancelier allemand Olaf Scholz qui demande un développement pacifique dans la région. L'Union européenne, cet après-midi, appelle à la plus grande retenue. Les pays du Golfe, comme l'Arabie saoudite, le Qatar, le Koweït ou encore les Émirats arabes unis ont eux condamné les frappes israéliennes, mettant là aussi en garde contre toute extension du conflit. Il y a quelques minutes, Antonio Guterres, secrétaire général des Nations unies, a exprimé sa profonde inquiétude quant à une éventuelle escalade. Pendant ce temps-là, les bombes tombent toujours sur le Liban et sur la bande de Gaza. Tedros Ghebreyesus, chef de l'OMS, décrit une situation catastrophique dans le nord de l'enclave palestinienne. Le ministère de la Santé du Hamas dresse un nouveau bilan de 42 924 morts depuis les attaques du 7 octobre 2023. Quand le Hezbollah libanais dit avoir tiré des roquettes sur cinq zones résidentielles dans le nord de l'État hébreu. Aux États-Unis, à présent, l'échéance présidentielle approche à grands pas. Le vote a lieu le 5 novembre prochain. Et les deux candidats continuent de lancer toutes leurs forces dans la campagne. Donald Trump et Kamala Harris étaient tous deux dans le Texas ce vendredi. Un État plutôt conservateur pour lequel il n'y a pas vraiment de suspense. Les candidats à la Maison-Blanche s'y sont néanmoins rendus pour marteler leur thème de prédilection. D'un côté, l'immigration pour l'ancien président républicain. De l'autre, la défense du droit à l'avortement pour la démocrate. L'actuelle vice-présidente américaine qui peut compter sur un nouveau soutien de taille, celui de la superstar Beyoncé dont la chanson Freedom est devenue l'hymne officiel de la campagne de Kamala Harris. À Miami, la correspondance de David Thompson.
Son apparition sur la scène électrise les 22 000 places de ce stade dans son Houston natal. Ce soir, Beyoncé ne vient pas chanter, mais elle appelle l'Amérique à chanter une nouvelle chanson, celle de Kamala Harris, que la diva vient soutenir officiellement pour devenir la première femme présidente des États-Unis.
Je ne suis pas ici en tant que célébrité. Je ne suis pas ici en tant que politicienne. Je suis ici en tant que mère. Une mère qui se soucie profondément du sort du monde dans lequel mes enfants et tous nos enfants vivent. Un monde dans lequel nous avons la liberté de contrôler nos corps.
Beyoncé sur scène avec Kamala Harris. Pour un meeting, paillettes, dédié à la restauration du droit à l'IVG, thème pivot de sa campagne dans un Texas, état symbole de la répression contre l'avortement.
Plus de 20 États ont une interdiction de Trump contre l'avortement. Une femme américaine sur trois vit dans un État avec une interdiction de Trump contre l'avortement, comme c'est le cas au Texas.
Un peu plus tôt, Donald Trump était lui aussi au Texas pour marteler son thème de campagne favori, l'immigration, et moquer sa rivale. Kamala, dit-il, est au Texas pour se montrer avec des célébrités woke, mais elle ne rencontrera aucune des victimes des crimes commis par les migrants. David Thompson, Miami RFI.
RFI, 18h06 ici à Paris. Les derniers développements de la guerre en Ukraine hier. Une attaque militaire russe dans la ville de Dnipro, dans le centre du pays, a fait au moins 5 morts, dont un enfant et plus d'une vingtaine d'autres personnes blessées. Des immeubles résidentiels, mais aussi des bâtiments d'un hôpital ont été visés, selon le gouverneur régional. Le président Volodymyr Zelensky a dénoncé, je le cite, des meurtriers russes, alors que d'autres frappes russes survenues dans la nuit ont fait un mort et un blessé dans la région de Kiev, la capitale. Et en cette année 2024, à l'accent particulièrement électoral, plus de la moitié de la planète est appelée aux urnes. On vote ce dimanche en Géorgie, un scrutin législatif particulièrement surveillé. En marge du vote d'ailleurs, Salomé Zourabichvili, l'actuelle présidente pro-européenne, a dénoncé des actes violents, je la cite, profondément préoccupants, et cela dans différents bureaux de vote du pays. Un scrutin scruté parce que le vote a des allures de référendum pro-Russie ou pro-Europe dans un pays secoué par plusieurs vagues de manifestations contre le gouvernement conservateur. Et face à ce conservatisme, l'opposition pro-européenne apparaît désunie. C'est en tout cas ce que nous explique le géographe spécialiste du Caucase, Jean Radviani.
Il y a de nombreuses listes d'opposition qui ont une chose en commun, c'est qu'elles sont toutes pro-européennes et pour se rapprocher de l'OTAN, mais qui ont des tas de différences plus profondes vis-à-vis de la religion, vis-à-vis de la politique étrangère, vis-à-vis des voisins. Et donc, on a une situation très, très fragmentée. L'opposition n'a pas réussi à présenter un front uni, sinon que la présidente en exercice, qui était française, Salomé, elle a présenté à tous les partis d'opposition une charte pour essayer de les inciter à s'unir contre le parti au pouvoir rêve géorgien. Et donc, ce choix, il est effectivement déterminant. Enfin, s'il y a une majorité claire qui se dessine, ce qui n'est pas sûr, que comme il y a plusieurs partis, on peut avoir un parlement fragmenté et pas de majorité très claire.
Jean Radvani, joint par Margot Ratézic. Je vous le disais en titre, les bureaux de vote viennent de fermer leurs portes. Les résultats doivent suivre dans nos prochaines éditions. Nous appellerons nos journalistes sur place, Régis Janté et Robin Dussène. Et puis cette question santé pour refermer le journal. Comment lutter contre la dengue? Un an après avoir connu sa pire épidémie depuis 30 ans, l'Argentine met en place des solutions nouvelles pour limiter le nombre de cas de la maladie cette année. Et pour cela, les autorités de plusieurs provinces ont relâché des milliers de moustiques stériles de couleur rouge. Objectif de la manœuvre, limiter la prolifération des insectes. Théo Conscience à Buenos Aires pour RFI.
Les autorités de la province de Mendoza ont relâché cette semaine 10 000 moustiques mâles élevés et stérilisés en laboratoire. Objectif, qu'ils s'accouplent avec des femelles pour limiter la prolifération des moustiques et les cas de dengue. Placée sous le contrôle du ministère de la Santé provinciale et de la municipalité, cette expérimentation a vocation à être mise en place à plus grande échelle si elle se révèle efficace. En plus d'être stérile, les moustiques relâchés ont la particularité de ne pas piquer les êtres humains et sont reconnaissables à leur couleur rouge fluo afin d'éviter que les gens ne les tuent. En parallèle, plusieurs provinces ont acheté des centaines de milliers de doses de vaccins qu'elles ont déjà commencé à administrer gratuitement à certaines catégories de la population. L'an passé, l'Argentine a connu sa pire épidémie de dengue en 3 décennies, avec plus de 580 000 cas et 419 décès enregistrés. L'absence de campagne de prévention et de plan de vaccination au niveau national avait suscité de fortes critiques, qui avaient été renforcées par une pénurie de répulsifs anti-moustiques au plus fort de l'épidémie. Théo Conscience, Buenos Aires, RFI.
À Buenos Aires, il est 13h10, 18h10 ici à Paris. Tout de suite, Mondial Sport sur RFI.